Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Vous écoutez SBS French sur la radio SBS et nous sommes le samedi 1er novembre, il est 13h. Ravie de vous retrouver, je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble. Comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective. La rétrospective du jour et on fait un bond de 80 ans dans l'histoire puisque le 1er novembre 1945, l'Australie ratifiait la Charte des Nations Unies, ce qui faisait d'elle l'un des 51 membres fondateurs de l'organisation. On fait le point sur cette rétrospective avec Ileana Guillochon.
Et ça s'est passé à un 1er novembre 1945, l'Australie franchit un cap historique en rejoignant officiellement les Nations Unies. Revenons un peu en arrière, le 26 juin 1945, à San Francisco, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, 50 pays se réunissent pour construire les bases d'une paix durable, et parmi eux, l'Australie.
Cette organisation représente une conception universelle, sachant se placer au-dessus des intérêts nationaux particuliers, ne reposant ni sur le pouvoir, ni sur le privilège, mais sur la foi. La foi des hommes en les valeurs humaines, et la certitude que tous les hommes, dans tous les pays, désirent les mêmes choses, paix et justice.
Et aujourd'hui, nous explorons le rôle déterminant de l'Australie dans la création de l'ONU et la vision d'Herbert Verdock Evatt, ministre des Affaires étrangères, qui a veillé à ce que les petits pays puissent se faire entendre dans ce nouvel ordre mondial. La Seconde Guerre mondiale de 39 à 45 a laissé le monde en ruine. Les nations alliées voulaient s'assurer qu'un tel conflit ne se reproduise jamais. En 1941, la déclaration interalliée de St. James Palace marque un premier pas vers l'espoir d'une paix durable pour les générations présentes et futures. Signée par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les gouvernements en exil de plusieurs pays européens, elle affirme que la paix durable repose sur la coopération des peuples libres pour garantir la sécurité économique et sociale à tous. Une série de conférences suit, ajoutant détails et structures à ce qui deviendra l'ONU. En 1944, à Dumbarton Oaks, Chine, Grande-Bretagne, Union soviétique et États-Unis établissent l'organisation et ses procédures.
And representatives of Great Britain. The three allied nations are meeting here at Dumbarton Oaks to study world security and formulate a tentative United Nations proposal. Sir Alexander Cadogan of England.
Herbert Verevat, homme politique australien, devient ministre des Affaires étrangères en 1941. Peu intéressé jusque-là par la politique internationale, il prend rapidement un rôle central dans la création de l'ONU. Furieux de découvrir que Roosevelt et Churchill avaient pris des décisions pour le Pacifique sans même consulter l'Australie, ils forment une alliance avec la Nouvelle-Zélande pour garantir que les petits pays aient leur mot à dire. À San Francisco, en 1945, Evatt défend la sécurité collective, permettant aux petits pays de peser dans les décisions internationales et de se protéger contre toute agression. Il propose que l'Assemblée générale, représentant tous les États membres, ait des pouvoirs proches de ceux du Conseil de sécurité. Evatt ne se limite pas à la paix. Il plaide pour la liberté, le respect des droits humains, le plein emploi et de meilleures conditions de vie pour tous. Pour lui, l'Australie doit juger chaque décision sur le mérite, sans suivre aveuglément les grandes puissances.
Gary Davis et M. Evatt sont au fond d'accord, le désir de paix est partout. Mais où en sont les chemins ?
C'est à ce moment-là que naît le document fondateur de l'organisation, la Charte des Nations Unies. Ce texte pose les bases des relations entre les pays, égalité entre les États, interdiction de recourir à la force et recherche de la paix par le dialogue. Signée à San Francisco le 26 juin 1945, elle entre en vigueur quelques mois plus tard, le 24 octobre. La Cour internationale de justice y est également créée pour régler les différends entre pays selon le droit et non par la guerre. Grâce à ses efforts, l'Australie devient l'un des 51 membres fondateurs de l'ONU.
Appelé à procéder à l'élection de son nouveau président par 31 voix contre 20, M. Ivatt, délégué de l'Australie, a été appelé à présider la troisième session de l'ONU. Le monde a les yeux fixés sur Paris. La paix, la...
En 1948, Ivatt devient président de l'Assemblée générale, une reconnaissance de son rôle et de celui de son pays. Sous sa présidence, il participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Australie obtient un siège non permanent au Conseil de sécurité dès 1946 jusqu'à 1947 et y siégera à 4 autres reprises. Et depuis sa fondation, l'Australie reste un membre actif de l'ONU. Elle soutient le maintien de la paix, la protection des droits humains et participe aux programmes de développement durable comme l'Agenda 2030 et l'Accord de Paris sur le climat. Elle promeut l'égalité des genres, les droits des peuples autochtones et le dialogue interculturel et s'engage dans des réformes pour rendre l'ONU plus efficace et accessible à tous les pays. Et l'Australie a été le 5e plus grand contributeur au Fonds volontaire pour les populations autochtones et a été élue en 2017 parmi les 15 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ses engagements démontrent sa volonté de promouvoir la coopération internationale, la paix et les droits humains à l'échelle mondiale. L'entrée de l'Australie à l'ONU en 1945 n'était pas un simple geste diplomatique. C'était un acte fondateur de sa politique étrangère moderne. L'Australie continue d'affirmer sa voix parmi les nations, fidèle à l'idéal d'un monde gouverné par le dialogue plutôt que par la force et résolument engagée pour les droits humains, la paix et la coopération internationale. L'ONU compte à ce jour 193 États membres.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Soleil couchant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
C'était la chanson Paris-Melbourne, interprétée par Sophie Morin, que vous entendez souvent sur SBS French, puisqu'elle fait partie de notre sélection musicale. Allez, messieurs, dames, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant avec la première partie de notre dernier épisode d'Europa Voice. Les débats continuent en ce moment même à l'Assemblée nationale française. On vote pour le budget 2026 et le PS, le Parti socialiste, propose une version plutôt light de la taxe Zuckman. Christophe Mallet, Nathanaël Bloch.
Europa Voice, comme chaque semaine, je suis Christophe Mallet et je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Et un Europa Voice cette semaine où on aura deux sujets bien distincts. On va parler de taxation en France et un gros débat autour de la taxe Zuckman. Et on va parler également d'un vieil ami, une Madeleine de Proust pour nous, le Brexit et les retombées du Brexit, à savoir eh bien peut-être la prolévalence de quelqu'un comme Nigel Farage en Grande-Bretagne. Mais tout d'abord, Nathanaël, parlons peu, mais parlons bien de cette taxe Zuckman et de taxation en France. Ça focalise beaucoup les débats en ce moment au sein du Parlement.
Oui, tout à fait, Christophe. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre la taxe Zuckman et d'en parler, mais dans le cadre des débats budgétaires des aspérités et des différences qu'il y a entre les partis au pouvoir en ce moment, parce que pour les uns, cette taxe, évidemment, va beaucoup trop loin, alors que pour les autres, elle ne va pas assez loin. Et donc, on en est à découvrir des versions, j'allais dire, édulcorées de cette taxe Zuckman, notamment par le Parti socialiste. Mais avant même de parler de ça, ce qui est intéressant avec cette taxe Zuckman en termes de narratif politique, c'est qu'on a l'impression que c'est révolutionnaire, qu'on en parle comme ça tout d'un coup, alors qu'en fait, l'idée, Christophe, est assez simple.
Mm-hmm. Expliquez-nous un petit peu les détails justement de cette taxe Zuckman, parce qu'on parle d'une taxation à un certain pourcentage pour les très, 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 très riches. C'est pas juste les très riches, hein.
Non, c'est les, tout à fait. C'est effectivement les ultra riches. Cette taxe Zucman, elle s'adresse à un peu plus de 1000 foyers fiscaux et elle correspond à une taxation de 2%. En fait, c'est donc c'est un impôt, hein, mais qui cible, comme vous l'avez dit, les ultra riches. Le patrimoine, pour vous donner une idée, il est supérieur à 100 millions.
Ouais, 100 millions d'euros.
100 millions d'euros, exactement. Donc, on est vraiment sur le haut du panier. Pourquoi alors, en fait, il y a cette taxation pour les ultra riches, pour le haut du panier? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que par rapport à la progressivité de l'impôt et par rapport au pourcentage que ces ultra riches sont taxés, en fait, ils le sont beaucoup moins que les un peu moins ultra riches. Juste pour vous donner deux chiffres.
De 23% pour les ultra riches contre 47 à 51% pour le foyer normal.
Alors, on parle pour le foyer normal, mais même par rapport aux autres très riches. En fait, un foyer normal, effectivement, on est 45-50%. Même les ultra riches, ceux qui sont un petit peu en dessous de ces quelques exceptions-là, sont aussi taxés à 46%. Mais il se trouve que l'un peu plus du millier de foyers comme ça, de ultra ultra riches, n'est taxé qu'à 26%. Et donc, le différentiel hein, entre ces 26 et ces 46% rapporterait entre 10 et 15 milliards à l'État. Et donc, c'est toute l'idée en fait de cette taxe Zucman, c'est que la progressivité de l'impôt fonctionne. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte, enfin en tout cas, Zucman, l'économiste, s'est rendu compte que si ces foyers et leur patrimoine a progressé de manière exponentielle pendant ces 30 dernières années, leur contribution aux politiques publiques, enfin leur imposition, elle n'a pas du tout progressé dans les mêmes termes, dans les mêmes proportions. Et donc, c'est toute la philosophie derrière cette taxe Zucman et cette taxation, encore une fois, du patrimoine au-dessus des 100 millions d'euros.
Pourquoi ça coince? Parce que là, vous me dites ça sur le papier, on pourrait se dire, OK, ça semble relativement normal. Et j'allais dire, pourquoi ça coince et pourquoi, par exemple, le Parti Socialiste a dû un petit peu édulcorer sa demande et d'y aller avec un Zucman light, on va dire, où on augmentait le pourcentage, donc 3%, mais au-dessus de 10 millions. Pourquoi ça coince donc, et pourquoi il a fallu essayer d'adapter ça?
Alors, pour ça, il faut peut-être rentrer un petit peu plus, Christophe, dans le détail pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, de la taxe Zucman et de la manière, j'allais dire, de son assiette, hein, de quoi elle est composée. En fait, il y a un aspect qui, j'allais dire, ne coince pas et un aspect qui coince. L'aspect qui ne coince pas, c'est la taxation sur les biens immobiliers. Donc, ça va être, par exemple, la maison, les voitures, l'épargne, les œuvres d'art. Ça, il y a une espèce de consensus. Ce qui coince, en fait, c'est la taxation sur ce qu'on appelle les biens professionnels. Par exemple, les actions que vous avez dans des entreprises. Et c'est cet aspect, en fait, qui est très idéologique, qui coince. Pourquoi? Parce que ceux qui sont opposés à cette taxe Zucman disent tout simplement que ces biens professionnels, les actions, encore une fois, par exemple, mais ça peut être aussi les terres ou les machines, eh ben, en fait, les personnes qui les ont vont tout simplement les revendre à l'étranger ou vont eux-mêmes aller s'installer à l'étranger. Et c'est d'ailleurs, malgré elle, hein, l'entreprise Mistral,
oui,
d'intelligence artificielle.
J'allais y venir,
exactement,
le chat,
un peu prise.
C'est un énorme exemple, ça.
Exactement, et un peu prise dans ce tourment, parce que la peur, en fait, qu'ont les principales organisations et partis politiques, le MEDEF, mais aussi la droite, les socialistes, d'une certaine façon, c'est que tout simplement, ces pépites, ces licornes françaises, eh ben, elles arrêtent et de produire en France et de payer même des impôts en France et vendent leurs actions, leur part. Parce que Mistral, c'est un bon exemple, Christophe. L'entreprise ne fait pas de bénéfices, mais elle est valorisée à 11 milliards d'euros. Et donc, en fait, tout simplement, pour échapper à ça, il serait aussi simple que les fondateurs de Mistral soit vendent leurs actions à l'étranger ou soit tout simplement s'installent à l'étranger. Alors, pour contrer un peu ça, il y a une obligation dans la taxe Zucman de vendre à l'État, de vendre à la France. Mais vous voyez, en fait, l'opposition, elle est là. Elle est sur cette partie qui concerne les biens professionnels parce qu'encore une fois, les opposants à la taxe Zucman disent que c'est encore une fois taxer, imposer ceux qui créent de la richesse, qui crée des emplois, etc. Donc, c'est véritablement une opposition, pas tellement sur le chiffre, parce que vous avez raison, dans les faits, ça ne va pas changer grand-chose si on parle simplement du patrimoine immobilier. Mais c'est sur la création d'emplois et la création de richesses et de production en France que là, ça coince entre les opposants et les partisans de cette taxe Glucksmann.
Est-ce que ça peut être le sujet qui, au final, pourrait être ce qui ferait peut-être potentiellement tomber le gouvernement Lecornu 2 ?
Le Parti Socialiste, en fait, a besoin de cette version allégée, j'allais dire, pour que le bloc central, la majorité, puisse l'accepter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette taxe Glucksmann, c'est peut-être moins le gouvernement et Lecornu 2 qui va tomber que les socialistes qui ne seront pas capables d'avoir un marqueur très fort pour cette fin de mandat et peut-être l'utiliser comme une relance en vue des présidentielles de 2027. Donc, j'aurais tendance à dire, Christophe, pour nos éditeurs d'Europa Voice et de SBS, que en fait, personne et du côté de Renaissance et du côté des socialistes n'a intérêt au final à ce que ça n'aboutisse pas à quelque chose. Parce que pour la majorité, évidemment, l'idée n'est pas, l'idée d'avoir une certaine stabilité hein, et de pas changer encore une fois de gouvernement ou de pas avoir de motion de censure et de passer le budget, ça c'est évident, on en a parlé dans les précédents numéros d'Europa Voice. Par contre, encore une fois, pour le Parti Socialiste, la question est celle d'exister. Et cette taxe Glucksmann, et la version notamment allégée de cette taxe Glucksmann, est une manière pour le Parti Socialiste, sur un marqueur de gauche, sur une thématique aussi de gauche, qui est celle de l'impôt, et bien de pouvoir exister et de créer, j'allais dire, un narratif qui les mettrait d'une certaine façon en selle en vue des prochaines échéances électorales.
Absolument. Voilà. J'espère que vous avez un petit peu plus compris les enjeux de cet acte Glucksmann dans notre première partie d'Europa Voice.
C'était Léonie Pernet sur les ondes de Radio SBS avec la chanson « Le pas de l'au-delà ». Je sais qu'on est le 1er novembre, on a dépassé le mois d'octobre de un jour, mais tout de même, je voulais vous présenter SBS en demande au mois d'octobre. Qu'y a-t-il de disponible sur la plateforme ? Un épisode spécial ce mois-ci puisqu'on ne vous propose pas les sorties francophones, mais les sorties anglophones. À tout de suite. Watson SBS en demande. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus. Watson SBS en demande, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces, films, séries, documentaires, pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver au mois d'octobre ? C'est parti ! C'est un épisode très spécial que l'on vous propose ce mois-ci puisqu'il n'y a pas de contenu francophone à mettre à l'honneur. À la place, on vous fait découvrir ou redécouvrir deux programmes australiens. Le premier, c'est « Tell me what you really think », 10 épisodes de 30 minutes qui sont déjà disponibles. On retrouve Mac Fennell à l'animation de cette émission, tout en franchise. Plusieurs invités, des milieux différents, des personnalités différentes. De quoi faire un cocktail explosif lorsqu'il s'agit de parler de sujets que l'on aborde normalement avec réticence. Les défis liés au vieillissement, la stigmatisation de l'obésité, la réalité de vivre avec un TDAH à l'âge adulte ou encore la ménopause, vous êtes sûr et certain d'écouter des discussions sincères, sans tabou, sans filtre, des discussions audacieuses et parfois drôles, parfois choquante. Dans « Tell me what you really think », Mark Fennell attend de ses invités qu'ils dépassent les clichés et qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Bande annonce.
What happens when you take a group of opinionated Australians? One hot button topic close to their hearts.
How about you just shut your face?
No, we've got to go there.
They're called love handles for a reason.
Throw in three courses.
How is that okay?
Because it just depends.
Wait.
Wow. Too much information.
You have to look f***able.
You often get distracted during sex.
And me, I'm Mark Fennell, and this is Tell Me What You Really Think.
Tell Me What You Really Think est en VO sur la plateforme en anglais avec des sous-titres disponibles dans plusieurs langues, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel et coréen. Le deuxième programme à découvrir ou redécouvrir ce mois-ci, ça s'appelle The Idea of Australia, 4 épisodes d'une heure chacun. Et là, c'est Rachel Griffiths que l'on retrouve à la présentation. C'est une émission audacieuse, parfois provocante, hein, qui explore les mythes fondateurs de l'Australie. On y évoque les événements et les personnes qui ont façonné la démocratie, la place de l'Australie dans le monde, son identité culturelle, la relation entre les peuples non autochtones et les Premières Nations. Bande-annonce.
In the tale of Australia, where does the myth end and the truth begin?
We've done things ahead of the rest of the world.
Well, it's mind-blowing history.
It's not what's celebrated.
It's within our grasp.
We just need to be brave.
History is coming out of the shadows.
The Idea of Australia est en VO sur la plateforme, c'est en anglais, avec des sous-titres disponibles en arabe, en chinois simplifié, en chinois traditionnel, en vietnamien et en coréen. Voilà, messieurs, dames, pour notre très courte sélection du mois d'octobre sur SBS On Demand. Les contenus des mois passés sont toujours disponibles. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. Ça s'appelait En septembre sur SBS On Demand et c'est disponible sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes. Les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement sur SBS On Demand et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi. Je suis toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.
C'était la reprise de Julien Doré des L5, toutes les femmes de ta vie. SBS French a eu la chance de rencontrer Lamine et Awa Sonko, ils sont frères et sœurs complices, et ils sont venus nous présenter le spectacle Gaywell pour la première fois à Melbourne. Ils en profitent pour nous livrer les clés de ce spectacle rite qui puise dans la mémoire ancestrale des grignots pour relier le passé au présent et tisser des liens culturels entre le Sénégal et l'Australie. Et à l'occasion, on le disait, de cette première du spectacle à Melbourne, eh bien, le Théâtre National du Sénégal effectue une tournée en Australie. C'est une première depuis 1974.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'occasion de la première mondiale de Gaywell, nous avons le plaisir de recevoir Lamine Sonko, artiste interdisciplinaire, et sa sœur Awa Sonko, danseuse et chorégraphe, héritier d'une lignée d'artistes, je dirais, aristocratiques, tout droit du Sénégal. Et ensemble, ils signent une œuvre totale où rituel, musique, danse et images se fondent pour inviter le public à un voyage à travers une cosmovision africaine ancestrale. Awa et Lamine, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Merci beaucoup, Bertrand. Merci.
Bonjour à vous et merci pour l'invitation. C'est un honneur, plaisir d'être sur votre radio. Et Lamine m'en a beaucoup parlé d'ailleurs en bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Je commencerai par Lamine. Comment l'idée de créer ce projet Gaywell vous est venue?
Gaywell nous parle de l'histoire du Sénégal et l'histoire des Gaywell du Sénégal. Les Gaywell sont plus connu par le nom griot. Griot en Wolof, c'est Gaywell. Si on car l'étymologie de ce mot « géol », ça veut dire de créer un cercle. Mais cette cercle, c'est un cercle ancestral. L'arbre a palabre pour vraiment faire revivre et faire raconter à l'histoire de nos ancêtres.
Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'artiste de prolonger donc cette tradition des griots, un art qui plonge ses racines dans l'histoire millénaire du Sénégal et d'apporter ce savoir dans un contexte contemporain, donc en 2025?
On est en train de continuer ce qu'on a appris à travers nos parents, parce que notamment notre père Boulou Sonko était le directeur du Théâtre National d'Agnès Sorano, et notre maman Oumi Sène était l'une des très grandes danseuses de la culture sénégalaise. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de faire revivre et continuer cette mission que nos parents nous ont passée à travers l'art. Parce que ça, quand on parle de l'art, c'est l'espace des artistes. C'est là-bas qu'on vraiment essaie de plonger le savoir de nos ancêtres en utilisant la danse, les masques et aussi l'audiovisuel. On essaie de connecter vraiment ce qu'on sent et ce qu'on peut faire en mouvement. Je pense que Awa peut élaborer parce que c'est la grande sœur et elle a aussi beaucoup fait dans la monde artistique. Donc Awa, à toi.
Excusez-moi de vous interrompre.
Non, c'est nous.
Lamine vient de vraiment d'anticiper ma question. Lamine, on a l'habitude de la recevoir sur nos antennes. Awa, c'est la toute première fois. Je l'ai demandé qui est l'aîné entre vous. Et voilà, Lamine a anticipé la question et vous a présenté.
C'est un honneur, en fait, de partager le même plateau parce qu'on l'a fait il y a longtemps étant jeune. Parce que Lamine porte l'héritage familial, l'héritage des ancêtres, l'héritage africain, notamment sénégalais. On est né dans la famille qu'on a, la maman qui nous a porté, plus le papa. C'est des grands artistes au Sénégal. Ils ont beaucoup fait pour la culture africaine et sénégalaise. Ils ont voyagé beaucoup. Je pense que Lamine vous l'a déjà dit, qu'ils ont fait le tour du monde. Et tout ça pour amener l'héritage des ancêtres à travers le monde. C'est ce que Lamine fait à travers Géwel. Il continue le travail que les parents nous ont laissé comme héritage. Je sais que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion et tout ça. Et pour ça, on lui en remercie, nous. On dit souvent que c'est le génie de la famille, Sonko. Pour venir à votre question tout à l'heure sur l'art et aussi sur la culture et l'héritage des ancêtres, on est fiers de le porter, notamment Lamine, à travers Géwel. Géwel, ça nous ramène à l'histoire des ancêtres, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on a délaissé, et ce qu'on doit suivre comme chemin. En tout cas, pour ça, merci beaucoup, Sonko.
Vous venez de mentionner quelque chose d'extrêmement important. Vos parents, Oumi Séné et Bouli Sonko, sont de très grands artistes. Parlez-nous du rôle de vos parents dans ce parcours artistique exceptionnel que vous avez mené, dont l'un des fruits, c'est Géwel, notamment.
Parler à nos parents, c'est quelque chose très grande, je peux dire. Notre papa Bouli et notre maman Oumi, ils ont beaucoup travaillé avec le président Senghor. Avant 1960, le Sénégal n'avait pas son indépendance. La culture a été un peu comment on peut le dire, oppressée, quoi. En 1960, avec la vision du président Senghor, il a fait créer le Théâtre National d'Agnès Sorano pour essayer de créer un jumelage culturel entre le Sénégal et le monde. Et aussi d'essayer de faire véhiculer la culture. Parce que maintenant, si on voit ce qui se passe dans le monde avec la globalisation, comment on le dit en français, la culture des Géwel, la culture des griots est en danger parce que c'est des traditions orales. Et ces traditions orales, à ce moment, is facing a big, big, big problem. Pour essayer de le faire revivre ou de continuer la continuation culturelle de ce qu'on a appris ou ce qu'on a été inspiré par nos parents, c'est à travers les spectacles. Et c'est ça qu'ils ont fait à leur temps. En 1960, il y avait le ballet national du Sénégal, il y avait le ballet national du Guinée-Bissau et aussi Mali. Donc, c'était des moments de faire vivre la culture africaine. Et à ce moment aussi, c'était le same time as the Negritude Movement, le mouvement de Negritude qui a été dirigé par Aimé Césaire. Hein, on peut citer Aimé Césaire, on peut citer Léopold Senghor. Hein? Donc, ça, c'était dans les années 1930. Donc, c'était à ce moment-là que ces génies ont été, ils essayaient de faire, comment le dire, to bring back the pride of being, to be African. To vraiment essayer de faire revivre et d'avoir cette confiance d'être African et de faire véhiculer et partager notre culture. Et moi, c'est ça que j'ai vu nos parents nous créer au Sénégal et nous a aussi aidé à comprendre ça très tôt, que c'est important de vraiment savoir ta culture et comment la faire véhiculer et partager avec d'autres.
C'est extrêmement important. Vous avez évoqué donc deux grands personnages de la culture africaine et de la culture pas seulement africaine mais de la culture noire, parce que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, est aussi un grand poète, artiste, écrivain et homme politique, et Aimé Césaire, philosophe, penseur et grand théoricien de la négritude, donc une philosophie qui remet l'africanité et la négritude donc sur la scène internationale. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les ancêtres.
Oui.
Parlez-nous du rôle des ancêtres. Donc, la place des ancêtres et du savoir ancestral vraiment qui coule dans les veines du peuple sénégalais depuis des millénaires.
Ah, le rôle des ancêtres. On est fiers d'en parler parce que si on n'a pas eu les ancêtres, on sera un peu perdu, je crois. On n'aura pas toutes les traditions qu'on a apprises de nos parents et tout ça. Que eux, ils ont appris aussi de leurs parents, et puis eux aussi, ils ont appris des ancêtres, etc. C'est une fierté et une continuité à nous de continuer ça. Alors, les ancêtres nous ont donné un héritage richissime, en différentes manières. C'est les ancêtres qui ont inspiré Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor et d'autres. Et bientôt, je dirais Lamine, parce que c'est un panafricain. Donc, comme eux. Donc, s'il y a une continuité, ça nous rassure, nous. Parce qu'il y a une étoile qu'ils ont plantée, les ancêtres. Ils nous l'ont fait savoir et ils ont continué ça. Et je trouve que Lamine Sonko est sur ce chemin. Et ça, j'en suis fière.
Quand on parle des ancêtres, on parle aussi le monde des esprits. Les ancêtres sont les esprits. C'est les esprits qui nous fait bouger, qui nous fait danser, et qui nous fait vibrer aussi. Quand les gens voient la culture africaine, quand les gens dansent, quand ils jouent les instruments, parfois, la question que je demande aux gens, c'est quoi qui fait bouger les gens quand ils entendent la musique?
La musique.
C'est cet esprit que la musique porte. Et je pense que nous, à travers la Cosmovision africaine, on apprend comment se naviguer dans ce monde. Parce que cette cosmovision, ça nous fait penser à le monde des esprits, monde naturel, la nature, et aussi le cosmos. Parce que quand on parle about le cosmos, chez nous, au Sénégal, on a cette belief que chacun a son étoile. Et chaque jour, tu dois apprendre comment se connecter avec ton étoile. Et l'orbitation de ton étoile, comment l'étoile bouge. Et à travers Géol, c'est cette histoire qu'on est en train de raconter. Comment connecter avec l'étoile Sirius, qu'on appelle Unir, c'est nous. L'étoile Sirius, ça fait des millions d'années que nos ancêtres nous ont appris de vraiment se connecter avec les étoiles. Parce que dans le monde cosmique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différenciation des langues, on est tous unis parce que nous sommes des beams of light. Nous sommes un piece de lumière. Donc, je pense que quand on parle de nos ancêtres, c'est ce monde qu'on essaie d'évoquer à travers.
C'est ça. Awa, vous avez voyagé et enseigné en Europe avant de rejoindre donc Goel. Vous avez aussi une solide formation en danse, notamment en Saba. Qu'est-ce qui rend la collaboration avec Lamine sur un projet d'une telle envergure si profonde et si particulière?
Alors déjà, je suis fan de son travail. Je l'ai toujours été, parce qu'avec Lamine, on a joué dans une autre pièce qui s'appelait « Une Antigone d'Afrique », qui a réuni l'histoire grecque et l'histoire africaine, notamment sénégalaise, qui a donné le nom de Zeus à Roxane, des histoires qui se rejoignent. Et Lamine Sa, quand on le jouait ensemble, on l'a joué en Suisse, au Théâtre Saint-Gervais, Neuchâtel, à Zurich. On a un peu bougé en Europe. Au Festival de Limoges aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Lamine. Tu avais quel âge?
14 ans.
14 ans. Il était déjà le directeur artistique d'un grand projet qui s'appelait la Compagnie des Cris, dirigé par Gilles Lobert, un grand metteur en scène suisse, qui a vu le potentiel de Lamine très tôt et qui lui a donné notamment la direction de l'artiste du côté des Guéwel. Donc, nous les griots, c'était Lamine qui nous donnait à 14 ans, moi l'aîné. Et puis, il y en a aussi des vieux, des papas, des plus anciens, voilà, et qui étaient là. Mais c'est Lamine qui dirigeait, ça veut dire qu'il a il y a longtemps compris l'histoire des rituels, des esprits, des étoiles. L'histoire de Guéwel raconte tout ça. L'histoire de Zeus est bien différente de Guéwel, mais dans l'histoire de Zeus, nous on jouait le rôle des Guéwel, mais d'une autre façon. Et Lamine a amené avec son histoire Guéwel, il nous a fait rappeler déjà comment se connecter avec nos étoiles, comment traiter nos ancêtres, et aussi les rituels qu'ils nous ont laissés ici. C'est un honneur, moi, de travailler avec le petit frère qui a longtemps compris l'histoire et que j'apprends toujours de lui. Et c'est un honneur et un plaisir de partager la scène avec lui.
C'est un projet qui combine musique, danse, projection visuelle, paysage et tout ça. Comment avez-vous combiné, articulé toutes ces disciplines pour nous présenter cette tradition multimillénaire, multicentenaire, millénaire?
C'est l'ouverture artistique, parce que comme je suis ici en Australie, ça fait 20 ans que je vis ici, j'essaie de tout le temps retourner au pays, de vraiment me reconnecter avec la culture. Donc à travers cela, on a créé un partenariat avec le Théâtre National d'Agnès Sorano. Comme Awa le disait, Théâtre National d'Agnès Sorano, pour nous, is a melting pot de toutes les cultures ouest africaines. À travers Guéwel, on est en partenariat avec le Théâtre National d'Agnès Sorano, qui ont actuellement voyagé ici en Australie. Ils ont fait des tournées ici en Australie en 1974. Donc ça fait maintenant 51 ans que le Théâtre National d'Agnès Sorano n'a pas revisité l'Australie. Donc, c'est une grande honneur de le faire revenir ici en Australie. Et comme tu viens de dire, pendant 7 ans, j'ai fait des recherches au Sénégal avec la famille. On peut voyager partout au Sénégal pour apprendre avec les aînés, les elders, cette cosmovision. Comment vraiment partager les rituels? Et aussi, comment apprendre de créer des protocoles culturels qui vont nous aider à protéger ces savoirs, d'essayer de aussi réécrire notre histoire, d'essayer de décoloniser la façon de partager nos histoires. C'est pas un procès qui peut se passer très vite. Ça prend du temps de vraiment créer cette relation avec les elders, les aînés. Aussi, ça prend du temps de créer ce spectacle entre le Sénégal et l'Australie. On a fait pas mal de voyages entre Sénégal et l'Australie pour essayer de vraiment créer le cast, le groupe. Et après cela, On a fait beaucoup de workshops et beaucoup de développement. Et aussi, on a invité des autres artisans. Ici à Melbourne, il y a pas mal des artistes audiovisuels qui sont derrière cette production. Et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, d'essayer de faire des workshops et de dessiner comment transformer des symboles africains à travers les projections. Comment vraiment utiliser sound design, d'essayer de enhance les sons que les gens vont sentir quand ils regardent le spectacle. Pour cette journey, pour ce voyage, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. 7 years in the making, 7 ans. Et in that process, j'ai beaucoup appris comme un artiste comme un directeur artistique, parce que ça prend du temps d'écouter les artistes et aussi d'apprendre à travers eux. Et c'est pour cela que ce projet a pris 7 ans. Dieu merci qu'on va bientôt faire la grande première novembre 12 à Arts House.
Je ne veux pas le couper, mais c'est un perfectionniste. Lamine, c'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, il veut que quand il le montre, depuis tout petit, quand il le montre au papa, ou qu'il soit fier. Et là, il a longtemps travaillé sur ça. Il fait des recherches, parce que ça demande du recherche. Il fait aussi beaucoup de collaboration avec les artistes du Théâtre National Daniel Sorano et aussi des artistes internationaux. Du coup, il y a plein de choses qu'il fait que ça a duré 7 ans. Parce que il y a 2 ans, on a beaucoup répété au Sénégal et je suis très très fière du metteur en scène qu'il est devenu.
Vous avez évoqué donc le Théâtre National du Sénégal. Il y a certains des artistes qui vont d'ailleurs venir en Australie pour la première internationale des QL. Un petit mot sur ces artistes, parce que j'espère que nous aurons l'occasion aussi de les recevoir sur nos antennes, mais un petit mot sur ces artistes et aussi leur apport à ce projet exceptionnel.
Oui, les artistes qui vont venir du Sénégal, on a Dixen. Dixen est un grand artiste serrure qui joue le riti. Le riti, c'est un violon traditionnel qui est vraiment très cool instrument. Ndik est vraiment connu dans le monde serrure, qui est un gardien de la savoir des esprits serrure. Et aussi, on a Aziz Ngom. Aziz Ngom est un grand master percussionniste qui joue le sabar. Il est un master du sabar drum et aussi il est très connu sur le monde des rythmes rituels ndop. Ndop, c'est un rituel, comment le dire en français, ndop, c'est well-being.
Oui, c'est les danses rituelles. Quand on est en transe, qu'on est, on est possédé par un esprit ou un, voilà.
That's right. So, Aziz est un batteur de ndop et il est vraiment très fort. Et aussi, on a Amin Tassar. Amin Tassar fait l'une des très grandes danseuses du Théâtre National Daniel Sorano. Il fait partie du Ballet National La Linger comme one of the lead dancers. Also, on a Awa Koulibaly. Elle a une background mandingue. Elle partage la danse mandingue du Mali. Elle a beaucoup travaillé et aussi beaucoup voyagé avec le Théâtre National du Sénégal. Donc, il y a 4 artistes qui vont nous rejoindre ici à Melbourne pour cette grande première. Et aussi, il y a Awa, qui est the lead dancer. Avec Awa, ces 4 artistes, on sera une très grande team pour cette grande première.
D'accord. Et alors, vous allez danser aussi pour nous montrer un peu votre talent en sabar.
Yes.
Oui, avec plaisir. Non, avec plaisir.
On a hâte de voir cette première. Il y a aussi le projet d'une grande conférence à l'Université de Melbourne. Dites-nous un mot ou deux sur... parce que c'est pas seulement cette première, mais il y a aussi toute une série de spectacles et d'événements autour de ça, notamment cette grande conférence là. Parlez-nous de ça aussi.
Quand les artistes seront ici pour cette grande première, on a aussi des workshops et on a aussi des conférences académiques. Ce que tu viens de dire, c'est un grand symposium qui aura lieu le 29 octobre à l'Université de Melbourne. Et avec ce symposium, on va avoir des dialogues à travers, Indigenous African Ways of Knowing. Ce sera des dialogues académiques sur cela et aussi des dialogues artistiques. Donc, il y aura des spectacles et aussi il y aura des panélistes, des académiciens qui vont vraiment présenter leurs recherches sur les problèmes socio-culturels qui se passent en Afrique. Donc, on va parler de l'économie africaine, on va aussi parler de la culture africaine, on va aussi parler the complex situation of globalization and internationalization dans ces symposiums. Et aussi, il y aura des autres workshops avec des First Nation artists ici en Australie. Donc, on est en train de vraiment connecter la savoir ancienne africaine et aussi la savoir ancienne des aborigènes d'Australie pour vraiment faire connecter les deux pays.
Enfin, Goël, première mondiale dans quelques jours, et après cela, qu'est-ce qu'il y a comme vision pour ce projet exceptionnel?
On va faire la grande première ici en Australie et après on veut faire tourner Gewell internationally et on peut aussi, on va faire retourner Gewell au Sénégal pour le partager avec le public sénégalais. Et aussi il y a beaucoup d'autres projets qui sont liés avec Gewell. On va faire sortir nos recherches sur des livres pour vraiment, comme ça les gens peuvent lire un petit peu sur les recherches. Et aussi, on est en train de collaborer avec AWA pour voir comment on peut ouvrir des centres de danse pour vraiment apprendre les gens comment se reconnecter avec cette cosmovision. Et aussi, on est en train de produire un autre film pour vraiment montrer d'autres phases de cette savoir et de ces mémoires de nos ancêtres.
Parce que là, il est humble, il va pas tout vous dire. Le côté gueule, il l'a pris du côté de la maman, l'héritage de la mère. Mais maintenant, il fait aussi des recherches du côté du papa, parce que l'héritage aussi est aussi riche.
Avant de nous quitter, un mot de la fin à vous deux, un ou deux mots pour nos auditeurs.
Merci en tout cas pour l'invitation. Merci aux frérots de me faire partager ces expériences et aussi merci à vous, les éditeurs.
Merci Bertrand, vraiment comme d'habitude. Frère, merci beaucoup et merci à SBS pour cette opportunité de vraiment partager nos projets et aussi d'inviter vos audiences de venir expérimenter, expérimenter la culture africaine. Donc, merci beaucoup Bertrand.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.